On va peut-être pas se réjouir quand on fait tout le tour de la planète, par exemple.
Ouais,
des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien.
Je n'ai pas juste des bonnes nouvelles pour vous, François, aujourd'hui.
On va faire notre possible de naviguer dans tout ça. Allez-y, Mme Pellerin.
Donc, on a d'abord, on va parler du numérique, qui est à la fois un obstacle et un atout pour les travailleurs en situation de handicap.
C'est vrai.
Donc, c'est un vecteur de sociabilité qui valorise une nouvelle compétence. Ça devient donc un atout majeur pour redéfinir la place d'handicap dans l'entreprise. Les outils technologiques peuvent aussi aider la réinsertion ou l'insertion de personnes en situation d'handicap dans les entreprises. Hein. On a différentes technologies qui peuvent aider au quotidien également. Par contre,
Il y en a d'autres qui ne sont pas adaptés, alors ça devient un problème.
Ça peut devenir un problème justement quand le numérique n'est pas bien adapté. À ce moment-là, ça devient une discrimination parce que les personnes en situation de handicap sont incapables de l'utiliser. On parle, par exemple, de programmes ou d'applications qui ne sont pas adaptés à différents handicaps, ne serait-ce que par leur visuel, par exemple.
Ben, il y a Teams, entre autres, de Microsoft.
Qui est très mal adapté, effectivement.
Ouais. Son pendant qui s'appelle Google Meet, là.
Oui.
C'est pas évident, là, si vous êtes vous avez un problème de vue, entre autres. Là,
et c'est très Teams en particulier, très utilisé par les entreprises. Donc, si vous êtes une personne en situation de handicap et que votre entreprise fait une partie de ses réunions, voire toutes ses réunions sur Teams, ça peut être difficile là, pour vous de vous accommoder. Donc, effectivement, le numérique peut devenir à ce moment-là un obstacle.
C'est ce qu'on appelle un couteau à double tranchant.
Effectivement.
Ou les deux côtés de la médaille, peut-être. Parce que deux tranchants, ça va mal des deux côtés, là. Mais les deux côtés de la médaille, bien, il y a un bon puis un mauvais côté. Ça fait partie du, je dirais, du paysage. Et ça nous vient d'une étude qui a été réalisée dans la région de Rhône-Alpes pour le compte d'une firme française et qui nous permet de faire un peu le tour d'horizon. Ça vient du site qui s'appelle The Conversation, je pense, qui est un site intéressant à découvrir.
Oui, The Conversation ont beaucoup d'articles quand même très intéressants sur des sujets très variés. Donc, effectivement, c'est un site que je vous propose si vous avez besoin de lire sur différents sujets. Et effectivement, au niveau de l'étude, ça montrait entre autres, et on en a parlé beaucoup, François, que le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les personnes en situation de handicap. C'est à peu près pareil ici au Québec.
Tout à fait.
Et le numérique, comme je le disais, peut aider à réduire le chômage ou, au contraire, peut faire en sorte que les personnes en situation de handicap peinent à trouver du travail parce que le numérique est mal adapté.
Tout à fait, exactement. Ça, c'est vrai que c'est les deux côtés de la médaille. En matière de santé, là aussi, l'UNESCO l'association France Handicap essaie de faire démarrer une conversation.
Oui, effectivement. Donc, on parle d'une conversation au niveau, là, évidemment, des défis des personnes en situation de handicap et également d'aider donc à mieux faire comprendre les défis des personnes en situation de handicap. Ça s'appelle un million de conversations en français. Donc, ça inclut des témoignages, des partages d'expériences pour aller vers un parcours de santé plus inclusif pour tous et toutes. On en a parlé dans les dernières semaines, François,
le parcours
de santé est extrêmement difficile pour les personnes en situation de handicap, ne serait-ce qu'au niveau de la capacité à atteindre les immeubles qui ont des cliniques de santé à l'intérieur.
Oui.
Une fois qu'on est entré à l'intérieur, quand c'est possible, des fois le matériel n'est pas adapté. Donc, ça devient difficile d'avoir des...
Non seulement le matériel n'est pas adapté, mais souvent les personnes avec qui nous sommes en relation, de relation professionnelle dans le domaine de la santé, les gens ne savent pas quoi faire, que faire. Et là, il y a souvent un grand manque de formation.
C'était mon troisième bémol. Quand tout est adapté, bien évidemment, il y a des professionnels de santé qui malheureusement ne sont pas formés à aider les personnes en situation de handicap. Ils peuvent être très maladroits dans leur approche du handicap. Évidemment, ça crée des problèmes aux personnes en situation de handicap pour accéder aux soins, mais également, ça peut y rendre plus...
réticent,
oui, voyage, je cherchais le mot, merci François, plus réticent à obtenir, à aller chercher les soins dont ils ont besoin. Et évidemment, quand les personnes ne sont pas traitées adéquatement, ben ça donne qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent s'exacerber.
Là, ça fait boule de neige et on se retrouve avec des problèmes qui aboutissent à l'urgence plutôt que dans le cabinet de consultation. Donc, pour en savoir davantage, vous pouvez vous informer, aller sur le net, ça s'appelle cette initiative... Ça s'appelle un million de conversations. C'est un partenariat entre l'UNESCO et France Handicap. Et là, ça regroupe toutes les personnes dans le système de santé là-bas qui sont engagées dans le processus. Il y a par ailleurs des bonnes nouvelles.
Oui, j'ai mis quelques bonnes nouvelles, François, vous me connaissez.
À Lyon, donc, entre autres.
À Lyon, oui, depuis plusieurs années. Il est clinique pour les personnes en situation d'handicap, déploie une politique d'handicap engagée, guidée vers la volonté de garantir à chaque patient avec un handicap un accueil respectueux et un parcours des soins inclusif.
Et ça, c'est intéressant parce qu'ils font, dans cette démarche, ils font référence ou ils sont signataires de la charte Romain Jacob.
Oui, dont on a parlé la semaine dernière,
tout
François.
À fait.
Qui est une charte qui est une réflexion organisée par un groupe de militants où on veut en fait aider à retirer les discriminations des personnes en situation de handicap. Donc, il y a plusieurs signataires à cette charte-là, comme on a parlé la semaine dernière.
Il y a 6000 organismes qui y ont participé et ça définit une douzaine de droits qui sont les droits, si on peut dire, de la personne handicapée qui face aux ressources dans le domaine de la santé. Alors, le droit d'être traité, mais le droit d'être traité dignement, le droit d'être traité d'une manière qui est compatible à sa situation, ainsi de suite. D'ailleurs, à Lyon, ils ne s'arrêtent pas là. À l'Université de Lyon-Sud, les étudiants en deuxième année de médecine participent à un stage d'immersion dédié à la sensibilisation au handicap intégré à leur formation initiale. Ce programme vise à leur faire découvrir les réalités quotidiennes des personnes vivant avec un handicap et leurs aidants. Bravo!
Donc, c'est une belle façon, effectivement, de commencer la formation quand on commence la formation de médecine. Donc.
Bien, et tout à fait. Alors, si à Lyon, ça se passe comme ça, en Loire aussi, ils ont travaillé à faire un meilleur accueil aux urgences.
Oui, donc on parle de meilleur accueil pour aider les personnes en situation de handicap à être mieux orientés dans leur parcours de soins et à les rendre là, donc un parcours de soins plus agréable et plus facile pour eux.
Et là, encore une fois, c'est intéressant de constater que cet organisme à l'autre bout du pays, de l'autre côté de la France, là encore, signataire de la charte Romain Jacob,
oui.
Depuis 2016, l'Agence régionale de la santé du Pays de la Loire s'est dotée d'un plan d'action régional fixant dans ses actions prioritaires l'organisation de protocoles d'accueil aux urgences pour les personnes en situation d'handicap. Voudrais se poser la question, est-ce que la charte Romain Jacob a un pendant ou des signataires ici au Québec?
Je ne crois pas, mais il faudrait effectivement vérifier,
oui.
François.
On va aller fouiller de ce côté-là parce qu'il semble y avoir de belles...
c'est une belle initiative là, pour sensibiliser à tout le moins les gens aux défis du handicap et que les gens puissent s'engager à essayer de faire mieux.
Tout à fait. Et là, vous avez une autre nouvelle qui nous arrive du côté médical aussi.
Oui, donc on parle de à Saint-Denis cette fois, où on a un nouveau laboratoire d'innovation dédié au handicap et à l'autonomie.
Okay.
Handiab, qui s'installera à la fin décembre, donc tout bientôt, François. C'est un nouveau lieu qui devra héberger une maison de santé qui proposera des soins primaires et des services d'imagerie adaptés aux personnes en situation d'handicap. On parle d'un lieu qui va faire 13 000 mètres carrés, complètement dédié donc au handicap et aux soins qui sont adaptés à ces personnes.
Ça, c'est énorme, ça. 13 000 m², c'est beaucoup. Et quand on parle de soins d'imagerie, ça me fait penser à l'imagerie, bien, on parle entre autres des radiographies, oui, et toutes ces choses-là, où là, le matériel n'est vraiment pas adapté.
Oui, effectivement, la montée sur une table d'imagerie pour une personne en situation d'handicap, c'est très difficile. On parlait également il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, François, mais des mammographies, hein,
oui,
où la personne,
ben, voilà,
doit se tenir debout. Donc, imaginez une femme qui ne peut pas se tenir sur ses jambes, qui doit,
exact,
passer des mammographies. Donc, c'est tout ce type d'équipement-là qui, effectivement, n'ont pas été réfléchis pour les personnes en situation d'handicap. Équipement qui, évidemment, coûte très cher. Donc, on a peu d'alternatives qui sont proposées aux personnes en situation d'handicap dans les cliniques plus conventionnelles. Donc, on peut penser que Handihab de Saint-Denis va
faire une différence.
Va faire une différence pour aider les femmes à avoir un suivi
adéquat
et prévenir tout problème de santé qui pourrait survenir.
Oui, tout à fait. Mais évidemment, ça passe par la formation, puis ça passe aussi par les équipements. Alors, il y a les,
oui,
deux qui doivent être au rendez-vous.
Les deux doivent être au rendez-vous, mais j'imagine, François, même si on n'en parle pas particulièrement dans l'article, que les personnes qui vont travailler dans ce lieu vont être formées au
fait.
Handicap, puisque c'est un lieu qui est dédié aux personnes en situation d'handicap. En tout cas, ça irait de soi.
Voilà, ben bravo. Avant d'aller en pause, les clubs sportifs, là aussi, on essaie de devenir plus inclusif et de faire une meilleure formation.
Oui, on parle des clubs sportifs de l'UTA Dieppe Neuchâtel qui pourront participer dès le mois de janvier à une session de sensibilisation et accueil des personnes en situation d'handicap.
Ça, c'est une autre retombée des Paralympiques en France.
Oui, donc on va pouvoir accueillir des personnes en situation d'handicap et ça vient du comité paralympique et sportif français qui est donné pour objectif de sensibiliser 3000 clubs sportifs,
oh,
au niveau national en 2024. Donc, effectivement, en leur montrant comment ils peuvent adapter leur sport et comment ils peuvent être plus inclusifs envers les personnes en situation de handicap. Parce qu'on le sait, François, les personnes en situation de handicap, bouger, c'est bon
défi
pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique, mais effectivement,
oui,
c'est un défi pour eux de trouver les endroits adaptés où le faire.
Bravo. Ben, on va en reparler après la pause. On nous dit qu'on a du temps. Ah, ben, bravo. C'est comme un cadeau de Noël, ça, M. Tessier. Bravo. Ben, on va parler de dénutrition tout à l'heure, parce que ça, c'est un sujet qui est assez long, mais pour vous mettre un peu sur les balises, la perte de poids, la fatigue, les troubles bucco-dentaires, les signes sont là, mais pas souvent inaperçus pour les personnes en situation d'handicap.
Effectivement, et c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé, mais c'est un problème pour les personnes en situation d'handicap, particulièrement, on le disait, François, les soins ne sont pas accessibles pour ces personnes-là, et donc on ne peut pas prévenir différents problèmes et à un moment, la nutrition devient donc une difficulté.
Tout à fait. Alors, on en parle après la pause.
Découvrez Sans détour avec François Beauregard.
De retour avec Élisane Pellerin. Nous parlions tout juste avant la pause, Élisane, de dénutrition. Et je m'excuse de ma naïveté, mais c'est vrai que ça doit être un problème.
Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai fait le saut, François, en lisant cet article, parce que je n'avais jamais fait le lien. Mais on parle de 2 à 3 millions de Français, dont une majorité en situation de handicap,
exact,
qui sont pris avec des problèmes de malnutrition, entre autres à cause de troubles bucco-dentaires.
C'est
et,
vrai.
Effectivement, ben, ça cause, évidemment, des problèmes de fatigue, évidemment, une santé qui globale qui décline. Parce que quand on se nourrit pas bien, hein, on manque d'énergie, puis il y a d'autres problèmes de santé qui vont apparaître.
Et souvent aussi, ça, se mal nourrir, ce n'est pas nécessairement une question. La dénutrition, ce n'est pas une question de ne pas manger suffisamment en termes de volume, mais ça veut aussi dire, et surtout entre autres, de consommer des aliments qui ne sont pas suffisamment nourrissant.
Oui, il y a ça aussi.
Où il y a des lacunes, peut-être, ça va être des choses qui sont plus faciles à préparer ou préparer à l'avance, mais là, on va avoir peut-être plus de calories et
souvent
moins de protéines.
Souvent, qui coûtent moins cher aussi, malheureusement.
Ah, oui,
ben les personnes en situation de handicap, on le répète, François, j'ai l'impression de toujours le répéter à votre micro, mais ils sont plus... important en situation de
pauvreté. Les personnes
en situation
de handicap sont plus pauvres. Okay?
Oui,
le
voilà.
mot, c'est ça, on est plus pauvres. Et en conséquence, on mange moins bien parce que l'offre alimentaire est moins bonne. En plus, parfois, on va être coincé dans des logements qui sont dans des quartiers où, là aussi, l'alimentation de proximité n'est pas tout à fait adéquate.
Et on parle, évidemment, il y a tout le fait qu'il faut, il faut se déplacer pour se rendre et tout ça. Des fois, ce n'est pas du tout
malheureusement,
bien adapté.
Tout à fait. Alors, entre autres, la santé bucco-dentaire est importante parce que si on pense à des gens qui sont dans des situations de handicap où il est difficile pour eux ou pour elles de communiquer, il peut y avoir des problèmes dentaires qui perdurent.
Oui.
Et ça rend à ce moment-là la nutrition, la déglutition plus difficile. Et bien là, ça fait boule de neige et on se retrouve encore une fois avec des gens qui sont à l'urgence ou en très mauvaise santé.
Et il faut dire, François, que pour le commun des mortels, on se rend compte qu'on a un problème au niveau dentaire quand ça nous fait mal.
Oui.
Et encore faut-il être capable donc d'exprimer notre douleur.
Tout à fait.
Pour les personnes qui sont moins capables d'exprimer une douleur par la parole. Donc, ça peut être effectivement difficile. Donc, on dit aussi de faire attention aux signes.
Tout
par
à
exemple,
fait.
Par exemple, la perte de poids. Si vous voyez qu'une personne en situation de handicap de votre entourage perd beaucoup de poids, c'est peut-être quelque chose qu'il faut investiguer.
Tout à fait. Puis là, on parlera aussi des coûts dentaires, mais là, on a quelque chose pour vous au Canada tout à l'heure.
Oui, ben, on va y revenir.
On y revient dans quelques minutes. Avant de quitter le vieux continent, maintenant, il y a une nomination quand même au César.
Oui, quelque chose qui va vous faire plaisir, François. Donc, on parle d'une personne en situation d'handicap dans le film « Mon inséparable » d'Anne-Sophie Bailey qui va être nommée aux Oscars. Donc, on parle de Charles...
Au César.
Au César, oui,
pardon. Ce sont les Oscars français, disons-le.
Oui, pardon. Donc, Charles Piscia-Galetto, qui est un... jeune comédien en situation d'handicap va être le premier à intégrer la liste des 16 acteurs nommés pour le César de la révélation masculine.
Mais moi, ce que je trouve vraiment sympathique, là, et ça, c'est bien, c'est que dans le même article, Marie Mingalon, qui est l'agente de Charles, confie ne pas connaître le handicap de son client. Peu importe, ce qui compte pour moi, c'est qu'il est un grand acteur. Alors voilà, c'est pas très important de savoir ce qui arrive du point de vue handicap à Charles Piscia-Galetto aux yeux de son agente, ce qui compte, et c'est tout à fait juste, ça devrait être la même chose pour le public, ce qui compte, c'est que c'est un excellent comédien. L'agent de l'acteur est costumier du fait 20% coutumière, devrais-je dire, Madame Mingalon, 20% de ses clients sont en situation de handicap et elle a par ailleurs participé au casting d'un film qu'on a vu cet été, Un petit truc en plus,
hein, oui.
Qui était un excellent film qui a fait beaucoup de chemin pour ce qui est d'ouvrir les yeux en
oui.
France.
Oui, où il y a des personnes en handicap intellectuel qui sont comédiennes, donc des vraies personnes.
Ah, oui.
Avec
oui.
des déficiences intellectuelles qui sont comédiennes dans le film. Et c'est un film qui est excellent si vous ne l'avez pas vu.
Allez le voir ou bien encore pour Noël, là, on ne sait pas quoi faire. On est à la maison. Est-ce qu'on doit aller chercher un film sur Internet? Alors, ça s'appelle Un petit truc en plus. C'est, entre autres, c'est créé et ça met en vedette Artus, A-R-T-U-S, qui est un comédien français qui est vraiment drôle.
Oui.
Enfin, c'est un film tout à fait Noël. D'ailleurs, je pense qu'à la fin, il y a une scène de Noël.
À la fin, il y a une scène de Noël.
C'est vrai.
Je l'ai écouté dernièrement, François. Ben, je l'ai trouvé sur Internet. Là.
Exact. C'est ce qu'on appelle les films qui, entre autres, réchauffent le cœur.
Oui.
Bravo.
Et on est très content pour le César de Charles qui va ouvrir, encore une fois, des mentalités. Et après lui, il y en aura d'autres. Donc, il faut un premier pour en avoir un deuxième.
Exact. Puis un jour, ce sera normal.
Oui, voilà.
On va changer de continent. Nous voici maintenant au Canada,
oui.
Au Québec, à Montréal.
On revient au Québec, donc on parle d'une percée montréalaise qui pourrait permettre à des gens de retrouver la vue.
Ouh.
C'est le professeur Gilbert Bernier qui a mené la création de feuillets rétiniens qui ont ensuite été greffés à des mini-cochons.
Des mini-cochons,
des mini-cochons.
C'est ce qu'on appelle des petits salauds.
Oui.
Hein? Bon, elle était facile, je m'excuse. Alors, les cochons, il faut le savoir, oui. Qui ont les plus petits là, dans leur espèce, oui. qui ont un poids à peu près similaire au poids humain, ont des yeux qui sont très près des yeux humains en termes oui. de morphologie.
Et évidemment aussi en termes de grosseur. Donc, oui. c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux que de travailler avec un autre animal. Et effectivement, on a donc essayé de greffer sur des mini-cochons dont la maculature était endommagée.
Et là, ce qu'il s'agit de faire, c'est que des cellules souches, qui sont des cellules plénipotentiaires, ce sont des cellules qui apparaissent au tout début de la vie, qui peuvent se transformer en des cellules spécialisées, que ce soit nerveuses, musculaires, cutanées, ainsi de suite, mais aussi, entre autres, des cellules qui sont celles de la rétine. Ça permet de créer des petites feuilles de rétine cellulaire et de coller ces petites feuilles de cellules de rétine dans le fond de l'œil. Et c'est là qu'est la difficulté.
Oui.
Alors, l'équipe du docteur Bernier, semble-t-il, a développé une technique qui permet une création de feuillets rétiniens qui sont ensuite greffés sur des mini-cochons dont la macula a été endommagée. Des cellules utilisées avaient été modifiées génétiquement pour ne pas être reconnues et pour éviter qu'il y ait une réaction immunitaire défavorable. Alors, puisque ces animaux, on parle des mini-cochons, ressemblent à celui des humains d'un point de vue de poids et la taille de leurs yeux est similaire, la greffe a été possible. Et on parle d'une avancée qui pourrait, d'ici quelques années, être applicable chez les humains.
Puis c'est
Bravo.
Le but, évidemment, François, parce qu'on n'a pas d'autres techniques là, pour réparer une macula qui a été endommagée. Donc, ça pourrait effectivement oui. Devenir la solution si on arrivait à faire la même technique sur les humains. En théorie, c'est possible.
Voilà, et moi, je lève mon chapeau aux mini-cochons.
Oui, qui se sont sacrifiés quand même. Oui, c'est gentil, le cochon. Donc, merci, cochon.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'animaux qui font beaucoup de choses pour nous, parfois.
Et on s'en rend pas toujours compte.
À leur corps défendant, voilà. Sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà. Ben, après la pause, on va aller faire un tour du côté de l'aménagement urbain. Pistes cyclables, saillies de trottoirs, bornes de rechange pour véhicules électriques, vélo Bixi. À Montréal, c'est transformé, mais parfois, les personnes à mobilité réduite ont été oubliées.
Oui, bien, en fait, à Montréal, évidemment, on a de plus en plus d'alternatives là, pour aider les personnes à se mobiliser, donc sans voiture. Oui. Et évidemment, on est pour le virage vert. Par contre, il ne faut pas oublier que les personnes en situation de handicap peuvent souffrir de ça, entre autres parce que les nouveaux aménagements urbains pour tout ce que vous avez nommé, François, ça gruge des plages de stationnement à Montréal, y compris des plages de stationnement pour personnes en situation de handicap. Vous savez, François, quand on essaie de se stationner à Montréal, déjà, c'est pas facile. Si on est une personne à mobilité réduite et qu'on est stationné à 1 km dans l'endroit où on va,
voilà.
C'est encore moins facile.
J'ai été surpris d'apprendre qu'il y a 231 places tarifées de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Ça a l'air beaucoup, 231, mais c'est pas beaucoup parce que c'est grand Montréal.
Pour Montréal, c'est pas beaucoup, non effectivement.
Voilà. Pour Saint-Jérôme, peut-être, ouais. Mais on sait pas. Mais pour Montréal...
Je vais y aller contrer à Saint-Jérôme, je reviens avec ça, mais pour Montréal, effectivement, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Et souvent, ben, ça va être des places qui vont être évidemment loin de là où on veut aller.
Oui.
Et il y a eu une étude...
Encore faut-il que ce soit libre quand on arrive. Là, on n'est pas les seuls qui veulent avoir une place pour personnes en situation de handicap.
Alors, à l'Institut national de recherche scientifique, la directrice du laboratoire piétons et espaces urbains, Madame Marie-Soleil Cloutier a fait justement une étude à ce sujet-là et qui a été reprise ou mentionnée par Michel Timmons, qui est un membre du conseil d'administration de Moi, l'Épinière Québec, Mémo. Et ben voilà, il y a peut-être des choses. Alors, la mobilité active, c'est bien,
oui.
Mais il manque un acteur, ce sont les gens à mobilité réduite.
Il ne faut pas oublier, comme c'est mentionné dans l'article, François, que les personnes à mobilité réduite souvent n'ont pas le choix de prendre leur véhicule parce que les métros sont mal adaptés, les autobus sont mal adaptés. Les bixi, on oublie pour la plupart d'entre nous.
Oui,
hein?
Tout à fait.
Donc, des fois, on n'a pas le choix, malgré tout, le vire en vert, de prendre notre voiture. Et il faut aussi être capable de se rendre à un bon port jours sans trop de problèmes.
Exactement. Ah, voilà. Et là, on parlait tout à l'heure de soins dentaires et de dénutrition.
Oui, parlons-en, François, des soins dentaires au Canada.
Ben voilà, le gouvernement fédéral, il y a quelques mois, annonçait à grand renfort de trompette qu'il y avait un nouveau programme fédéral, son régime de soins dentaires, où les personnes admissibles seraient couvertes à 100 % on disait même que des millions de Canadiens pourraient maintenant avoir accès à des services dentaires gratuits.
C'était si beau. François.
C'était vraiment bien. Et c'est encore bien, mais c'est pas si bien que ça.
Non, mais en fait, il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui ont fait un article dans les journaux pour dire que finalement, premièrement, la gratuité n'existe pas. Ouais. On parle donc de personnes là, à qui on avait promis la gratuité, mais qu'au final, là, sont obligées de payer 1 000 $, 1 800 $ de facture parce que le résidu sur leur facture, donc ce qui n'est pas payé par le régime est encore très élevé.
Tout à fait.
Et on explique ça, François, parce que les prix qui ont été mis au fédéral, donc le fédéral...
La grille qui a été utilisée par le gouvernement, oui.
Et cette grille-là, donc, n'est pas la même que celle qui est utilisée par les dentistes.
Ben oui, voilà. Alors, c'est sûr que... et le ministre Duclos, là, a fait un bel exercice de patinage pour nous expliquer que, oui, en effet, ben, c'est un bon début, mais que, ben, c'est pas si mal. Il y a 20 % des actes médicaux dentaires qui sont pleinement couverts, mais il y en a 80 % qui ne le sont pas totalement. Et donc, les tarifs des associations dentaires ne correspondent pas nécessairement à la grille que le gouvernement fédéral a mis de l'avant avec l'aide de conseillers ou de technocrates.
Donc, souvent, c'est plus élevé, voire beaucoup plus élevé.
Parce que
et donc, les personnes qui pensent avoir des soins gratuits se retrouvent à la caisse et se font dire qu'il manque plusieurs centaines de dollars. Évidemment, tu fais ça.
Ben voilà. Alors, et des dentistes se plaignent parce qu'ils doivent passer beaucoup de temps à, malheureusement, expliquer cette déconvenue aux patients qui sont finalement dans leur cabinet.
Et qui sont mécontents. Donc,
mécontents, qui risquent de ne pas revenir.
Oui, voilà.
Peut-être qu'ils peuvent carrément ne pas payer la différence. Ils ne reviendront pas, ils annulent leur rendez-vous et finalement, ben, la situation, la santé dentaire de ces gens-là n'ira pas en s'améliorant parce que si ce sont des gens qui longtemps ont été privés de soins dentaires pour des raisons économiques,
ben, ça va coûter cher à la prochaine visite.
Ben oui, c'est exactement. C'est peut-être des gens qui, ont, pour des raisons économiques, ont négligé leur santé dentaire. Et quand ils arrivent chez le dentiste pour enfin faire quelque chose, ben ça peut être...
Ça coûte plusieurs centaines de dollars.
Sinon milliers, parce qu'il y aura beaucoup de travaux à exécuter en bouche. Alors, le gouvernement ne s'étant pas appliqué à aligner son échelle tarifaire, pour son assurance, sur la pratique des dentistes, ben voilà, il y a des trous. Donc,
Il y a bonne nouvelle dans tout ça, François, c'est qu'il y a 9 dentistes sur 10 qui participent au programme. Donc,
bravo.
C'est énorme.
Ben ça, c'est
et,
très bien.
On parle donc de 9 millions de personnes qui seront admissibles à terme.
À ce programme, dont entre autres les personnes en situation de handicap déjà. Mais voilà, il y a
du travail à faire.
Il y a du travail à faire. De ce côté-là, entre autres, il y a un professeur. Le docteur Gustavo Duque, directeur du Centre d'excellence à McGill, qui faisait une entrevue avec Mario Dumont.
Oui, donc on parle du Centre d'excellence de l'Université McGill en santé des aînés, qui se spécialise sur les chutes, donc la prévention des chutes des personnes âgées. On sait que les chutes des personnes âgées, ça coûte très cher au système, ça coûte très cher en termes d'autonomie. Souvent, une chute, par la suite, on ne s'en remet pas totalement.
Ça
donc
crée
on
une
perd
hospitalisation,
énormément
oui.
d'autonomie pour
fait.
Les personnes en situation donc de vieillesse. Et donc, ce Centre d'excellence de l'Université McGill se spécialise pour
la prévention
des chutes afin que, évidemment, ce soit plus facile dans le réseau de la santé pour enlever un poids au réseau de la santé par rapport à ça, pour enlever, évidemment, un poids aux personnes âgées parce que souvent, c'est ce qui met fin à leur capacité de rester à domicile. Et on sait à quel point ça coûte cher pour tout le monde. Et donc... On parle de chutes qui coûtent 1 000 $ au système de santé lorsqu'il n'y a pas de complications.
Oh, quand il n'y a pas de complications, puis souvent il y en a.
Et jusqu'à 20 000 $ s'il y a une complication. Donc, si on doit, par exemple, si on a une fracture, si on doit faire des opérations, tout ça, ça peut aller jusqu'à 20 000 $. Donc, on parle, c'est extrêmement coûteux pour le système et, comme je le disais, au-delà. Du système qui est débordé, qui est engorgé. On parle aussi des personnes en situation de vieillesse qui perdent de l'autonomie, qui sont obligées d'être mises dans des systèmes comme des RPA ou comme des CHSLD, et on sait à quel point on manque de place pour eux aussi.
Là, c'est un dérapage vers le bas. C'est ça qui arrive. Voilà. À l'Université Laval, là, c'est tout le contraire. Il y a eu une initiative, l'hôpital à la maison. Ça, c'est formidable, une approche efficace. Il y a une étude qui dresse un bilan très positif de ce qu'à l'Université Laval, on appelle la clinique des aînés.
Oui, c'est un projet pilote grâce auquel une équipe mobile se rend chez des personnes âgées vulnérables pour leur prodiguer des soins de santé.
À la maison.
C'est tout simple, François, mais ô combien intelligent. Donc, c'est un service de santé destiné aux personnes vulnérables qui diminue de plus de 25% leur taux d'hospitalisation et raccourcit de 50% la durée d'une hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
Ouf.
Donc, c'est énorme.
Ça, c'est une étude qui vient tout juste de se terminer. Le projet pilote s'est déroulé en 2019 et en 2020 dans les arrondissements de Québec, de Cité-Limoilou, Beauport, Charlebourg, les Rivières. Et cet hôpital à la maison, cette clinique des aînés, qui a été mise sur pied à l'hôpital Saint-François d'Assise à l'initiative de Luc Tailleur, médecin de famille et professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Et une équipe dirigée par professeur Aymon de l'Université de Laval a recruté des personnes âgées à la santé fragile et ont mis en place donc tout ce système. Et les résultats présentés récemment sont remarquables.
Comme je le disais, il y a 248 personnes recrutées pour la création de la clinique ont toutes été hospitalisées, alors que 28% des 189 personnes recrutées après son implantation ont pu retourner chez elles immédiatement.
Exact.
C'est 28%.
Moins d'hospitalisation. La durée des hospitalisations qui était de 28 jours est passée à 14, donc c'est moitié moindre. Et lorsque des réhospitalisations étaient nécessaires, leur durée aussi était coupée de moitié. Le nombre de personnes qui ont dû revenir à l'urgence dans le premier mois, les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois après leur congé de l'hôpital, était aussi comparable. Le taux de mortalité était le même, mais le poids sur le système de santé, et on peut penser, comme vous le disiez tout à l'heure, au bienfait d'être chez soi et d'être autonome, c'est toute une différence.
Et évidemment, ça aide pour la mobilité de ces personnes-là qui n'est pas à se déplacer pour aller à des rendez-vous, particulièrement, par exemple, l'hiver, là où il y a des trottoirs glacés et tout ça, n'ont pas à trouver quelqu'un pour se déplacer avec eux. Donc, ça rend tout plus facile au niveau de la charge mentale de ces personnes-là, au niveau de leur angoisse. Donc, une initiative tout à fait adéquate et intelligente, malheureusement, François.
Ce qui tue, c'est qu'il semble que ce projet pilote, qui est maintenant terminé, et malgré son bilan positif, rien n'indique qu'il y aura une suite.
Effectivement.
La balle n'a pas été reprise au rebond.
Ce qui arrive, en fait, c'est que ce type de projet pilote-là, c'est des bourses de recherche qu'on reçoit pour y faire. Donc, effectivement, par la suite, on remet un bilan à la suite, donc, pour dire ce qu'on a fait avec la bourse et tout ça. Et c'est très bien, c'est tant mieux. Mais une fois la bourse passée dans le projet pilote, on n'a plus d'argent au niveau de cette bourse-là. Elle a été chue. Et il faut trouver d'autres fonds pour mettre le projet en phase 2, donc pour le garder ouvert.
Quand on regarde ça, on dit « Ah, mon Dieu, tout le système devrait fonctionner comme ça. » Ça me fait presque penser à un truc qui nous viendrait de Scandinavie. Hein. Souvent, on vante la justesse des politiques publiques dans les pays nordiques, les pays du nord de l'Europe, Finlande, Suède, Norvège, Danemark. On dit toujours « Ah, c'est donc bien fait chez eux. »
Et pourtant, on ne les remet pas ici, malheureusement. Donc, effectivement, le projet aurait déjà dû être financé par le gouvernement, entre autres. Et malheureusement, il n'y a rien qui indique qu'effectivement le projet sera financé à long terme. Donc, les chercheurs et les chercheuses qui ont travaillé sur ce projet-là sont toujours en attente de confirmation de montant pour être capable de mettre le projet pilote vers un projet stable qui durera au travers des années. On espère donc le fait que ce soit sorti dans les médias cette semaine.
Que ça pousse un petit peu.
Pousse un petit peu sur nos gouvernements parce qu'effectivement, c'est un projet évidemment qui coûte une certaine somme, mais qui, à long terme, va nous faire économiser énormément.
On parle dans le cadre d'une courbe démographique, la population vieillit. Les gens de la partie de la population qui a 75 ans et plus va augmenter de façon rapide au cours de la prochaine décennie.
Ce serait quelque chose à mettre en place tout de suite, François, parce qu'éventuellement, ça va coûter cher, donc aussi bien investir.
On aurait dû, on va dire ça comme ça. Bon, pour terminer, les prix signature 2024, certaines résidences pour personnes âgées ont été honorés pour leur excellence, leur bon travail. Entre autres, Chartwell Manoir Archer à Sainte-Foy, Villa Sainte-Rose à Laval, Manoir de Casson à Montréal, les résidences Soleil Manoir, la résidence Selena, située dans le sud-ouest de Montréal. Toutes ces résidences se sont méritées des prix dans le gala Signature 2024 qui a eu lieu récemment dans les ressources intermédiaires, la maison Dauphinel à Saint-Basile-le-Grand et le CHSLD de Laval. Parfois, on parle des CHSLD comme quoi c'est des places moches, là.
Bon, oui,
mais il y en a quand même qui font du bon travail.
Oui, voilà, on doit souligner leur bon travail à l'occasion.
À l'intérieur de leur mandat. Tout à fait.
Les prix signatures sont une initiative qui a été créée en 2021 justement pour souligner l'excellence dans les résidences pour personnes âgées.
Voilà. Alors moi, je vous suggère au courant des prochains jours, vendredi, samedi, dimanche, il y aura dans le cadre du championnat junior mondial de hockey, du hockey de très haut niveau en hockey sonore. Aha. Et tout ça sera sur YouTube. Allez voir Hockey Sonore Canada. Vous allez voir quelque chose au sujet du Blind Hockey League. C'est du hockey adapté pour les personnes handicapées visuelles, mais vraiment de niveau très élevé. J'y serai avec plaisir. Voilà!